écoutez présentement Radio H.
Hey, bonsoir tout le monde, ok? C'est Tony qui vous parle, ok? Approchez-vous, venez-vous-en, ça c'est mon kiosque, c'est ok? J'ai un petit projet à vous présenter, la radio H2O, j'ai tout plein d'affaires à vous présenter. Mais ouais, c'est bien belle fun, ok? Toi, viens ici, toi, j'ai quelque chose à te présenter.
En as-tu des crêtes de fromage, toi?
J'en ai des crêtes de fromage,
hein? As-tu des crêtes de radio H2O, toi, hein?
Hey, j'en ai pas mal de radio H2O, t'en veux-tu un petit peu?
Va t'en prendre, Chris de Radio S2O, hey!
Moi, j'ai des bonnes émissions, j'ai les 777 ici, j'ai les ADDNP, c'est une gang de Mongols, j'ai deux gars et une fille, on a tout plein d'émissions, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux une pieuvre? On va t'en donner une pieuvre,
j'en veux une pieuvre Aldress, moi, t'en as-tu des Aldress?
On en a des Aldress, il parle totalement n'importe quoi, c'est-à-dire, il va te parler d'informatique, il va te parler de filles, même s'il pogne pas avec les filles, c'est pas grave, s'il y en a les émissions.
Moi, c'est des technopolitiques, t'en as-tu des technopolitiques,
hein? À la craquelle, il y en a de technopolitiques pour toi, tu vas voir, c'est-à-dire. Hey, on a aussi un autre craqué mental, ok? Il s'appelle Neo, il pense à des affaires extraterrestres tout le temps, c'est bon pour toi aussi, tu vas aimer ça, tu vas voir.
Ah, c'est bon ça, hein? Puis ça coûte cher ça, c'est pas cher?
Seulement 12 paiements de 19,95$,
esti. T'apprends 15, hein? Esti.
T'apprends 15, m'a donné un free t-shirt en plus.
Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique. Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique.
Bon, ça marche pas. C'est quoi qui se passe, mon Radio H2O?
Enseignement. Information, éveil, conscience, sérieux, pas sérieux, Radio H2O.
You don't know the power of the dark side.
En direct de nulle part, c'est EDDNP.net. Vendredi, 20h, nous sommes en direct de nulle part, sur Twitter, /EDDNP, live, le vendredi, 20h.
Ok, c'est bon, merci, T-Dark, merci, ok, c'est beau, merci, on a assez, T-Dark, c'est beau.
Très bien. Je me retire dans ma loge noire.
Vous vous intéressez à la croissance personnelle et à l'éveil de votre conscience? Eh bien, le monde selon Néo de Québec est pour vous. Cette émission est diffusée tous les mercredis soirs de 19h à 22h, heure du Québec, sur les ondes de Radio H2O.ca.
On a un petit problème, je vais vous mettre en attente, on revient tout de suite.
Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus.
Ah bon, c'est réparé, nous revenons, je repars tout ça.
Going live!
Radio H2O, fier commanditaire du camp de bûcheron aux deux H.
C'est bon.
Ah oui, pour le tape.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome le H2O Show avec Keith
gargales.
Hello tout le monde, on est le 20 avril 2012. Puis le début est faux. Kuto n'est pas là encore. Puis en plus, Billy Jack n'est pas là. Commence bien. Je vais vous passer. Rentrer dans le feu de l'action pour repartir à va vite, pour en revenir tantôt. J'ai un petit empêchement, ça va être une pause musicale. Mais je vais commencer par une petite nouvelle. Une étrange maladie transforme les chats en robots vivants. Ça m'avait accroché, j'ai pas lu ça, j'ai juste regardé le titre. Les cas sont signalés dans la même région d'Écosse. Ces chats frappés par une maladie inconnue ont leur membre qui devient rigide. Ils se déplacent comme des robots. Ils ne peuvent plus tourner quand ils rencontrent un coin ou un obstacle. Autre bizarrerie, ils deviennent hyper affectueux. Malgré de multiples examens, pour l'instant, aucun agent pathogène n'a pu être retrouvé. Les vétérinaires pensent que quelque chose dans l'environnement engendre une réaction disproportionnée de leur système immunitaire. Les chats généralement euthanisés un an après le début des symptômes afin de mettre fin à leur souffrance. D'autres cas de chats robots sont également signalés en Suède et en Autriche. Ça, je vais vous donner le lien. C'est trouvé sur Wikistrike. Je ne sais pas regarder si mon volume est correct. 1-2-1-2. Oui, ça serait mieux parler un petit peu plus proche. C'était trouvé sur Wikistrike. Oups, attendez une petite minute. Il y a une affaire que je vais stopper. Bon. Parfait. Et ça viendrait de... Je suis pas capable de prononcer le site, mais en tout cas, il y a une référence en anglais en dessous. Bon, tenez. Puis il y a Edgira qui parlait d'une chose intéressante. Ça, je vais en parler tout de suite. Je trouve ça important. Hydrogénial, dans 15 jours, si j'ai bien lu, ouais. L'appareil à énergie libre d'hydrogénial. C'est que supposément, il y aurait un appareil qui fonctionne réellement pour, si je me souviens bien, c'était de la free énergie, puis qui va être présenté d'ici une quinzaine de jours. Ça serait bien le fun qu'on en parle partout. Puis, il disait que ça serait le fun d'en parler, je pense, justement ici. Moi, je suis bien ouvert, puis c'est quelque chose, justement, concurrence, pas concurrence, on s'en fout. Faut que... Il y a assez des médias qui parlent pas assez des choses qu'on voudrait, là. C'est le genre de choses qui est bien intéressant, si on peut démontrer que ça existe, là. Ça fait que, moi, je vais vous revenir. C'est plat de commencer, puis, faire une pause aussi rapide que ça, mais je vais revenir tantôt. Je vous laisse avec une pause musicale d'un certain nombre de minutes et je reviens. Peut-être d'ici 15 minutes à peu près, j'imagine. Je ne peux pas vous dire précisément. Il va y avoir une musique, c'est Stay the Way to Heaven, Led Zeppelin, mais version symphonique. J'avais oublié d'ouvrir le micro. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais le voilà. Je voudrais saluer le monde dans la salle, à part moi, Gandalf. Il y a Ijira, Dédé, Catherine, c'est le fun, hein? Je pensais pas qu'elle aurait passé. Puis Saint-Jean, bordel, c'est rare, c'est quoi tu fais là? On a la Normandie débac et le reste de la France. 10 minutes, je vais vous trouver d'autres nouvelles. Ça fait un petit peu bizarre la façon de faire, être tout seul. On peut pas compter sur quelqu'un d'autre pour passer à la nouvelle. petite nouvelle de Wikistrike. Je vous donne la nouvelle tout de suite. Tenez, la source est 7ss.be. C'est un média belge, si je ne me trompe pas. C'est pour faire du sensationnel un petit peu, mais quand même, j'imagine, c'est le fun. Jésus était gay. Ah, wow, allô la déclaration. Les interrogations sur la véritable identité de Jésus se multiplient. Aujourd'hui, une nouvelle thèse vient d'ajouter aux autres. Pour Paul, il y a un nom, passons, Jésus était gay. C'est dans les colonnes du Guardia que Paul Estrecher, je ne sais pas comment prononcer ça, aumônier à l'université de Sussex au Royaume-Uni a fait part de sa théorie. Selon lui, ce sont les toutes dernières paroles de Jésus qui sèment le doute sur sa sexualité. La Bible dirait en effet, quand Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait se tenir près de lui, il a dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il a dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Selon les évangiles, il s'agissait de gens que Jésus aimait d'une manière très spéciale. D'après les écrits de Jean, est d'ailleurs toujours représenté aux côtés de Jésus, sa tête et sur son torse du Fils de Dieu. Le plus souvent, et alors que tous les disciples avaient lui, Jean était le seul à s'être rendu au pied de la croix de Jésus, accompagné de sa maman Marie. Cette thèse va donc à l'encontre d'une autre rumeur affirmant que Jésus était en couple avec Marie-Madeleine. Pour Paul Utrecher, en tout cas le nom que j'arrive pas, là, cette liaison supposée avec cette femme n'a jamais été prouvée. Aucun écrit ne l'évoquerait, contrairement à la relation particulière de Jésus et Jean qui se serait souvent suggérée. Selon Paul, le nom est prononçable, ce n'est pas la première fois qu'on l'entente de parler de l'homosexualité de Jésus, mais cette hypothèse a été rejetée par tous, y compris par la communauté homosexuelle. Que Jésus soit gay ou hétérosexuel n'affecte en rien qu'il ait été ce qu'il signifie pour le monde aujourd'hui, conclut Paul, le gars du clergé imprononçable, là, c'est qui importe dans ce contexte et qu'il y ait beaucoup de partisans gays de Jésus ordonnés laïcs en dépit de l'Église, reste fidèle. C'était ça l'article un peu bizarre. Là. On rentrait ça dans section, comment je pourrais dire ça, inusité ou je sais pas trop, j'ai pas le mot aujourd'hui. Là. Attendez une minute, je vais vous trouver de la nouvelle. Comme je vous dis, je n'étais pas vraiment préparé aujourd'hui. Je pensais que Q3 aurait revenu. Il n'y a pas de Billy Jack non plus. C'était un petit peu spécial. Ah oui, pas pire ça. Nigel Farage. C'est un personnage vraiment à suivre tout le temps. Je vais vous donner ça. Je voudrais saluer Production Radicale qui vient de rentrer. La source est Goldop. C'est un blog, c'est pas quelque chose. OK, c'est un blog. Nigel Farage, des effondrements bancaires graves vont avoir lieu. Comme c'était vraiment une nouvelle, mais par contre, de lui, c'était un peu spécial. Là. Ça vient comme confirmer un petit peu plus, si j'ose dire. Une petite goutte dans le vase plein. Quand est-ce qu'il va déborder? Avec l'escalade des craintes concernant la stabilité de la zone euro, King World News a interviewé l'ancien courtier de la London Bullion Market Association, quelque chose de même, et actuellement député européen Nigel Farage. Afin d'obtenir son point de vue sur la situation, Farage a fait quelques commentaires très intéressants concernant des Italiens déplaçant de grandes quantités d'or vers la Suisse. Lorsque King World News a posé ses questions sur le chaos en Europe, Nigel Farage a déclaré, attendez une petite minute, d'après les... ça vient faire quoi? OK, je pense que c'était des commentaires du monde. OK, d'après les des personnalités officielles en Europe, et la nouvelle branche du FMI, la succursale de Washington, nous avons eu l'unanimité sur le fait qu'il n'y avait pas de perspective quand à tout moment l'euro était sous menace. Gilles Farage continue ceci, une déclaration choquante du FMI que, double point, il y a un réel problème. Et il peut y avoir une rupture de la zone euro. Cela pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Je vois cela comme une sorte de fissure dans le barrage. Ils ont toujours utilisé l'argument que l'euro devait continuer d'exister et un individu du FMI vient complètement démolir cette croyance. Puis là, ben, l'article continue là-dessus, dans le fond... Il nous prédit des problèmes économiques, là. On s'y attendait un peu. Je vais regarder, voir qu'est-ce qu'ils se disent un peu dans la salle aussi. OK, il y a Dédé qui a donné un lien vers une vidéo. Je vais aller voir c'est quoi. Bon, c'est quoi ça? Okay. Le gars qui s'amuse à faire cuire des planches avec le soleil qui concentre sur une planche. C'est sûr qu'on n'exploite pas beaucoup toutes les énergies qui sont disponibles, dont le soleil, ça en est un, là, qu'on exploite à peine, nous. Bon, je passerai pas tout ça, c'est 8 minutes. Mais allez voir la vidéo si ça vous tente, là. Je vais vous redonner le lien que c'est Dédé avait donné. Attendez 10 minutes. Un homme entouré de 12. Saint-Jean, j'aurais une question. Tu veux-tu te joindre à moi? Curiosité, je te demande ça comme ça. J'avais l'impression que tu dois être sur Skype aussi. Je sais pas. Je te vois pas. Mais en tout cas, si jamais ça tente, t'as juste à lever la main. Ou Catherine. C'est vrai, Catherine, de ne pas avoir de micro. Hey, j'entends de la musique par derrière. J'ai pas arrêté le player. Bon, attendez une petite minute, je vais vous trouver d'autres nouvelles. C'est normalement quand on est deux, un peut chercher pendant que l'autre dit quoi. Le responsable du laboratoire, le CLIRAD, parle, premier point, avoir un dysfonctionnement aussi grave. Attends un petit peu, il dit même pas c'est de quoi qu'il commence tout de goût comme ça. Il parle, je pense, d'une centrale nucléaire en France. Premier point, avoir un dysfonctionnement aussi grave sur une pompe du circuit primaire. De réacteurs nucléaires avec une projection d'huile, perte d'huile. Je pense que c'est une vieille nouvelle, cette affaire-là. En tout cas, des incidents nucléaires, il y en a partout. Je vais quand même vous donner le lien. Je voudrais vous trouver de quoi un petit peu mieux que ça. Métal noir chez moi. Ouais, ça c'est bon. Attendez une petite minute. Ça a l'air broche à foin aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas la meilleure journée. Pris sur Wikistrike, encore une fois. La source est 7SS, encore le média belge. Exaspéré par les contrôles de l'aéroport, il se déshabille. Ça, c'est quand même drôle. Vous pouvez aller voir les photos, puis il y a un petit reportage là-dessus. John Brennan, quelque chose de même, a été arrêté à l'aéroport de Portland pour s'être déshabillé en protestation contre les fouilles exagérées des agents de sécurité. L'homme a déclaré à la police se sentir harcelé par cet excès de suspicion. Brennan a été arrêté pour outrage à la pudeur et conduite inappropriée. Il a expliqué aux agents de police qu'il était un voyageur régulier, qu'il avait décidé d'enlever ses vêtements en protestation face à l'attitude complètement exagérée des agents de sécurité. L'homme qui devait se rendre à San José, en Californie, avec la compagnie Alaska Airlines, a raté son vol en raison de l'incident. Celui-ci n'est pas le seul à avoir pété un câble à cause des agents de sécurité américains régulièrement accusés d'en faire trop. Il y a une semaine, une femme s'est dénudée à l'aéroport de Denver. Elle avait été surprise en train de fumer près d'une porte d'embarquement et s'était déshabillée pour protester contre l'attitude excessive des services de sécurité. La femme avait justifié son geste par un fait qu'elle était épuisée, nerveuse et n'a pas été inculpée, contrairement à l'homme. Je vais aller voir la petite vidéo, aller cliquer dessus, voir. J'espère que je ne tomberai pas sur.
Good evening, thanks for joining us. I'm Wayne Garcia. Shauna is off tonight, and first on Fox's story that's going to have a lot of people talking tonight. A bizarre scene unfolded at Portland International Airport when a man got busted for stripping down naked right next to the X-ray machines at the security checkpoint. Travelers snap pictures of the shocking sight, and tonight we're learning what led the man to take it all off. KPTV's Natalie Brand spoke with a witness and joins us tonight from the airport. Natalie?
Wayne, a lot of people are talking about this one, and from witnesses and port police describe, this was done as a form of protest. Here's a look at a picture taken by another traveler of this unusual situation. Port of Portland police have identified the naked man as John Brennan from Portland. They say he took off all of his clothes while going through the ABC security checkpoint this evening around 5:30. A spokesman says when interviewed, Brennan told investigators that he flies a lot and had disrobed as a form of protest against TSA screeners who he felt were harassing him. Now, we spoke to one traveler and witness, Brian Riley, who took this picture. He heard part of the exchange between the man and TSA agents.
I was hearing one of the TSA agents yelling, "Stop the line, stop the line," and we looked up and there was a man completely nude, and he would clearly been pulled aside for more of a security check, like he was in the line with us, and he got pulled aside, you know, for extra security measures, and he clearly, you know, was kind of protesting it, and decided to get completely naked in his protest there. He was saying things like, you know, am I doing anything illegal, or do I have anything illegal, am I good to go through now, you know, trying to make a point, you know.
Now, Port Police say John Brennan was arrested on charges of disorderly conduct and indecent exposure. A spokesman says the situation caused two screening lanes to be closed while some passengers covered their eyes and their children's eyes. Police and TSA screeners say they asked Brennan numerous times to put his clothes back on, but he refused. And investigators say he had been scheduled to travel from Portland to San Jose, but he's now been booked in jail. They also say that neither drugs nor alcohol were involved in this. Reporting live from PDX, I'm Natalie Brand, the 10 o'clock news.
C'était ça, la petite nouvelle qui a passé à leur télévision. Sarkozy, il n'y a plus de risque d'implosion de l'euro. Il n'y a plus, comme ça n'existait plus. Je prends énormément sur moi pour rester correct et être poli sur ce sujet. Nicolas Sarkozy étant aussi pitoyable que François Hollande qui déclare que la France n'avait rien à craindre. Mépriser autant les personnes et les croire aussi stupides, c'est grave. Nicolas Sarkozy, le 19 avril 2012, sur le plateau de la chaîne de télévision TF1 à Boulogne-Billancourt. En tout cas, Boulogne, ça doit être une section de Boulogne. Là. C'est vraiment pas... La France, c'est pas mon coin. Hein. Nicolas Sarkozy a affirmé vendredi sur RTL qu'il n'y avait plus de risque d'implosion de l'euro, ajoutant que l'euro était en convalescence. Le risque d'implosion de l'euro n'existe plus, mais l'Europe est en convalescence. C'est une réalité et nous n'avons pas le droit à l'erreur, a affirmé le président candidat. Selon lui, à la minute où nous relâchons la pression sur la réduction des dépenses, la déduction des déficits et l'endettement à la France connaîtra un sort, le sort de l'Espagne. Puis là, ben, il continue là-dessus. Je ne sais pas si que là, il essaie de dire que ça s'améliore à cause que les Japonais, ils ont promis 60 milliards, puis il y en avait d'autres là, pour aider l'euro. Là, mais est-ce que c'est juste partie remise? Point d'interrogation. Mais c'est pas une référence, ça, Cosy, je pense. Attendez une petite minute, j'essaie de vous trouver d'autres nouvelles encore. J'ai pas beaucoup de nouvelles ce coup-ci, je vais vous dire. Je pensais vraiment que Cutoir était là. OK. Une atteinte sérieuse à la théorie de la matière noire. Aujourd'hui, cette mystérieuse matière noire est également considérée comme un composant essentiel de la théorie en vigueur sur la formation et l'évolution des galaxies. Les nouvelles mesures montrent que la quantité de matière noire contenue dans une grande région autour du Soleil est bien plus petite que ce que les modèles prédisent, indiquant ainsi qu'il n'y a pas de matière noire en quantité significative dans notre voisinage. Crédit OSO/L, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi, Calzado. Cliquez ici pour agrandir. L'étude la plus précise jamais réalisée sur les mouvements des étoiles dans la Voie lactée n'a trouvé aucune preuve de la présence de matière noire dans une zone relativement grande autour du Soleil. Selon la théorie largement acceptée, le voisinage du Soleil était supposé être rempli de matière noire, une mystérieuse substance invisible que l'on ne peut détecter de manière qu'indirecte grâce à la force gravitationnelle qu'elle exerce. Mais une nouvelle étude menée par une équipe d'astronomes au Chili a trouvé que cette théorie ne concorde pas avec les faits observationnels. On peut donc supposer que les tentatives de détecter de manière directe les particules de matière noire sur Terre risquent très probablement de n'apporter aucun résultat. Puis là, il continue. Dans le fond, c'est une grosse théorie qui s'effondre peut-être plus ou moins. Là, mais à quel point la science est fiable en partant, de toute façon, on nous a tellement bernés partout. Il y a Dédé qui s'en va. Et on a perdu Catherine. Puis, moi, je pense que je vais terminer ça assez vite à cause que j'ai pas d'autres nouvelles. Je sais que c'est bien plate, mais on va s'apprendre lundi. Puis, comment je pourrais dire ça? Il va y avoir EDDNP à soir. On est le vendredi. Je trouve ça bien plate de finir de même, là, mais c'était vraiment là, émission imprévue. Partie, c'est les chapeaux de roue. Il y a Dédé qui donne une vidéo. Qui est longue vidéo, mais très intéressante à écouter, d'Étienne Schwein. Je vais aller voir ça. Il paraît que c'est assez long, je ne suis pas sûr que je vais en passer. Oups, là, il s'est fermé un petit peu.
Alors, je viens vous parler de démocratie, mais de la vraie, celle qui n'existe pas du tout. Et celle qui, je crois, serait capable de nous sortir du pétrin.
Oui, bon point. Est-ce qu'elle existe, la démocratie?
Je suis prof à Marseille et en 2005, j'ai commencé à exister. Je me suis réveillé politiquement à l'occasion d'un débat public en France où on nous consultait sur une prétendue constitution et... en la lisant, je me suis mis en colère, je trouvais que c'était dangereux. J'ai écrit un texte d'une dizaine de pages, plus de 10 pages de notes, et je l'ai publié sur mon site. J'ai envoyé ça à mes contacts, 3 fois rien, une bouteille à la mer. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a transformé ma vie. Les gens s'en sont emparés, ça correspondait à quelque chose qui leur manquait. Et je passais des nuits, pendant des mois, j'ai passé des nuits à essayer de répondre à ces gens-là, surtout d'ailleurs ceux qui ne m'aimaient pas, en essayant de leur prouver qu'ils avaient tort, qu'ils se trompaient. Et progressivement, donc là, il y a les journaux qui s'en sont emparés, les télés, les radios, tous ces gens-là sont passés à la maison. Le compteur du site se transformait en ventilateur, il y avait 40 000 visites par jour, 12 000 mails en deux mois. Et finalement, rétrospectivement, ensuite, je me suis aperçu que c'est le regard des autres qui était en train de me transformer, qui était en train de me donner une force inouïe. À la fois le regard des autres, positif, qui attendait de moi quelque chose, et il fallait que je sois à la hauteur. Et puis les regards de ceux qui ne m'aimaient pas du tout, qui se méfiaient de moi, qui disaient que j'étais un imposteur, un bon à rien, quelqu'un qui n'était pas à sa place. Et j'avais envie de leur montrer qu'ils se trompaient. Et ça tendait le même ressort, mais donc c'était vraiment tous les regards me donnaient une énergie considérable et qui marche encore aujourd'hui, qui marche vraiment absolument aujourd'hui. Et j'ai découvert que c'est une vieille affaire, que les Athéniens appelaient ça la vergogne. Et je trouve que c'est un concept très intéressant et essentiel. Pour les Athéniens, le bon citoyen donnait de l'importance au regard des autres. Ça le poussait à la vertu. Quand les autres comptaient sur lui et le récompensaient de leur regard, ça lui donnait l'intention d'être vertueux. Et quand les autres avaient un regard réprobateur, ça les incitait à ne pas sortir, ça incite le citoyen à ne pas sortir du sentier de la vertu. Et c'est vrai que ça marche, les gens qui ont de la vergogne sont plus vertueux que les autres. Et donc inversement, ceux qui n'ont pas de vergogne sont extrêmement dangereux, au point qu'à l'époque, vous avez des mœurs plus brutales que nous aujourd'hui, pas obligé peut-être de les mettre à mort, mais on pourrait éviter de leur donner des responsabilités. Depuis, finalement, je me donne du mal pour... Pourquoi ? D'abord, je cherche à comprendre la cause des injustices sociales. J'essaye de voir s'il n'y a pas une cause principale pour toutes les injustices sociales. Ensuite, je découvre avec émerveillement les idées géniales qui fondaient la démocratie athénienne, donc une vraie démocratie. Je remets plein de mots à l'endroit, des mots importants, qui sont complètement mis à l'envers depuis au moins 200 ans. Et finalement, j'essaye d'imaginer... Alors, c'est un chantier. J'ai pas une vérité révélée. Je construis un objet, là. J'essaye de rendre robuste une idée. Je cherche à penser des institutions, de bonnes institutions, qui nous protégeraient tous contre les abus de pouvoir. Je compte sur de bonnes institutions pour nous pousser à la vertu. Je ne compte pas sur des citoyens vertueux. Je crois pas à ça. Je pense que nous avons tous en nous-mêmes du bon et du mauvais. Par contre, de bonnes institutions pourrait nous pousser à la vertu, ou, comme c'est le cas aujourd'hui, nous laisse dériver complètement en dehors de l'intérêt général et du bien commun. Pour chercher, j'utilise une méthode formidable que nous a conseillé un vieux monsieur, donc Hérodote, antique, un médecin, qui disait « chercher la cause des causes ». Et je me sers de ça tout le temps. Pourquoi il disait ça ? Il disait... Quand on a un problème, quand il y a un mal à soigner, évidemment, ne vous en prenez pas aux conséquences. Vous ne réglerez pas le problème. Ne vous en prenez même pas aux causes. Elles sont multiples, tout est multifactoriel. Ce n'est pas ça. Il vaut mieux chercher, parmi toutes les causes, la cause, s'il y en a une, au moins une des causes déterminantes, c'est-à-dire celle qui détermine les autres causes. Et c'est celle-là qu'il nous faut. C'est ça que je cherche. Alors... Je partage avec tous les copains résistants, je rencontre depuis que je fais de la politique, je rencontre plein de gens qui résistent depuis toujours, et je partage avec eux évidemment toutes ces luttes, et j'ai fait un schéma pour vous montrer la variété des sujets sur lesquels les gens résistent. Et donc j'ai fait ça sous forme d'arbre, et l'arbre montre, enfin ça permet de montrer que je m'étonne que tous ces résistants s'en prennent à des choses importantes, mais qui ne sont que des conséquences. Et je trouve que personne n'essaye de comprendre la cause de tout ça. Et il me semble que j'ai trouvé, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une cause commune à toutes ces impuissances, et à toutes ces injustices. Donc je pars des conséquences, des injustices sociales, j'essaye de comprendre d'où elles viennent. Il me semble qu'elles viennent de l'absence de contrôle des pouvoirs qui produisent une impuissance populaire. Et je pense que s'il y a des injustices sociales, c'est parce que les gens bien, les gens normaux, n'ont pas le pouvoir de résister. Tous ces gens qui résistent et que je connais, tous ces militants, ils résistent, ils passent toute leur vie à se bagarrer, ils ne changent rien. Comment ça se fait ? Parce que leur impuissance politique leur interdit d'agir. Mais d'où elle vient, cette impuissance politique ? Pour ce que j'en analyse, je pense que cette impuissance politique vient de la Constitution, du texte qui fait que les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas de compte à rendre, on ne peut pas choisir nos candidats, on n'a pas le référendum d'initiative populaire. De notre initiative, nous ne pouvons décider de rien. La monnaie, et on la laisse privatiser, parce que dans la Constitution, il n'y a rien pour obliger au fait qu'elle soit publique, etc., etc. J'ai pas le temps de développer, mais dans la Constitution, toutes nos impuissances sont programmées. Ça vient pas du ciel, c'est écrit quelque part. Alors, j'essaye toujours de comprendre quelle est la cause des causes, quelle est la cause de cette cause. Qu'est-ce qui fait que, partout dans le monde, toutes les constitutions programment l'impuissance des peuples ? C'est pas un complot, ça peut pas être un complot. Pas tout le temps et dans tous les pays. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est un processus universel qui doit avoir une cause universelle. Et il me semble que ce qui fait que toutes ces constitutions sont mauvaises, qu'elles programment l'impuissance des gens au lieu de programmer notre puissance, et au lieu de nous garantir contre les abus de pouvoir, elles programment notre impuissance, je pense que c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution, les auteurs constituants, ceux qui écrivent la Constitution ont un intérêt personnel à pas écrire de bonnes constitutions, à pas écrire notre puissance. Et ils sont jugés partis, ce sont des professionnels de la politique. Et cette cause-là, là on est proche de la cause des causes, c'est pas leur faute, c'est pas eux qui sont des pourris, c'est nous qui les laissons écrire. Pour comprendre l'importance de cette erreur, il faut que je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une constitution. Les peuples, nous, depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment. Ils produisent un droit dont nous avons besoin pour pacifier notre société. Mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement. Ça fait 2500 ans qu'on sait ça, quoi. Hein, le pouvoir rend fou, le pouvoir... Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, mais pourquoi pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes ? Ben sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils renonceront jamais, la solution elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Alors, dans la bagarre qui va opposer les gens normaux à ceux qui exercent le pouvoir en ce moment, Ah oui, c'est bien ça le temps qui passe là. Il y a une inversion des mots. D'abord, je ne suis pas un citoyen. Un citoyen, c'est autonome. Ça vote, il vote lui-même ses lois. Moi, je suis un simple électeur. C'est-à-dire, je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyens, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie ? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit ? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent.
Et quand ils, dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Alors c'est vrai qu'on a la liberté d'expression, mais absolument sans aucune force contraignante. C'est-à-dire qu'on a le droit de blablater, si ça n'a pas d'effet, on a le droit. Dès que ça change quelque chose, c'est un massacre. Et nous appelons ça démocratie. C'est notre faute. Nous devrions faire la grève de ces momentaires. Nous devrions refuser d'appeler démocratie ce qui est son strict contraire. Nous participons à notre impuissance politique en acceptant d'appeler démocratie ce qui est la négation même de nos droits. C'est-à-dire que quand on accepte d'appeler ça démocratie, on n'arrive même pas à formuler la solution. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire, puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots. C'est du Big Brother, absolument. Hein. Ça ne s'est pas passé par hasard. C'était pas bien au début, en 1789, quand ça a commencé il y a 200 ans, et puis ça ne s'est pas dégradé. C'est pas du tout ça. Sieyès, un grand penseur de la Révolution française, une pointure, hein, je ne vous parle pas d'un second couteau, écrivait en 1789, « Les citoyens, ouvrez les guillemets, hein, c'est Sieyès qui parle, les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants ne peuvent pas écrire le droit, ne peuvent pas du tout, doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. » S'il dictait des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès, hein. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Tiens, ce gars-là n'était pas un démocrate. Et il savait très bien ce que c'était la démocratie, vous allez le voir dans un instant. Tout le monde savait, avant 1789, tout le monde savait, Montesquieu, Aristote, ils savaient tous que l'élection est aristocratique, donc oligarchique. Aristote le disait explicitement, je vous passe la citation. Montesquieu le disait aussi explicitement, je vous passe la citation. Vous irez sur le net pour chercher, il faut que je gagne du temps. Je voudrais insister, ça c'est vraiment, c'est super important, il y a deux choses très importantes. Pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, où il y avait des riches et des pauvres. Ok, je sais qu'ils avaient mis de côté les esclaves, je sais qu'ils mettaient de côté les femmes. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle des citoyens. Les citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est des pauvres qui ont dirigé toujours. Toujours. Au contraire, on a un autre exemple. Alors, on a deux exemples historiques avec des faits. Ce n'est pas des opinions, c'est des faits. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est les pauvres qui gouvernaient. Il y avait des riches, mais ce n'est pas eux qui gouvernaient. C'est les pauvres qui gouvernaient. Et puis pendant 200 ans de gouvernement représentatif, parce que c'est comme ça que ça s'appelle notre régime, ça ne s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle un gouvernement prétendument représentatif. Et dans ce régime-là, pendant 200 ans, c'est toujours les riches qui dirigent. Toujours. Ma question, puisque le tirage au sort donne le pouvoir aux pauvres, le pauvre c'est 99%, hein, puisque l'élection donne le pouvoir aux 1% des ultra-riches, mais jusqu'à quand les pauvres, les 99%, vont-ils défendre l'élection comme si c'était une vache sacrée? Enfin, je veux dire, pour moi, il y a quelque chose d'indéfendable à voir tous ces pauvres qui défendent l'élection alors que le tirage au sort leur rendrait le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que nous tenons à l'élection? Je pense que c'est parce que c'est pas la raison, parce que les faits montrent que nous n'avons pas intérêt à ça. Mais par contre, c'est les mythes. L'école dite républicaine nous apprend que depuis qu'on est tout petit, que élection égale démocratie, démocratie égale élection. Alors, depuis que tout petit, on le croit. Et donc, il y a une période de désintoxication de ces mensonges de voleurs de pouvoir. Il faut arriver à remettre les mots à l'endroit. Nous ne sommes pas en démocratie, et ce dont nous aurions besoin, c'est une démocratie avec du tirage au sort qui nous libérerait de ceux qui veulent le pouvoir. Pour changer les choses, il me semble que nous ne pouvons pas compter, il ne faut pas compter sur ceux qui ont le pouvoir en ce moment. La solution ne viendra pas d'eux. La solution, elle viendra des gens normaux, des gens simples, des gens qui ne veulent pas de pouvoir. Et là, il faut que vous connaissiez cette pensée d'Alain, qui est un penseur formidable à connaître absolument, qui disait « Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres. » et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Si les gens bons ne veulent pas gouverner, et qu'on donne le pouvoir, comme dans le gouvernement représentatif, à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Ce piège qui est désespérant d'Alain, Alain, il a raison quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Alors que on peut sortir de ce piège, de cette tenaille, je pense, avec une vraie démocratie. Une vraie démocratie où vous donnez le pouvoir à n'importe qui, et les meilleurs d'entre nous sont parmi ces n'importe qui ne veulent pas du pouvoir. C'est la démocratie qu'il nous faut. Mais c'est à nous de le vouloir. Il ne faut pas attendre que nos élus le veuillent. Ils ne le voudront jamais. Les élus, ils ne veulent pas la démocratie. Ça les foutrait au chômage, la démocratie. Le tirage au sort à Athènes, il donnait un tout petit peu de pouvoir. Pas longtemps, et jamais deux fois de suite, avec plein de contrôles qu'il faut prendre le temps d'expliquer, ce qui fait que les Athéniens, ils donnaient ce petit peu de pouvoir pour le garder pour eux. C'est pas les tireurs au sort qui votaient la loi. Les tireurs au sort, ils faisaient la police, ils faisaient la justice, ils appliquaient les lois, ils faisaient les préparations des lois, parce que les Athéniens, en assemblée, ils pouvaient pas préparer les lois. Et parce que les représentants étaient affaiblis par le tirage au sort, les citoyens avaient la garantie qu'il restait le souverain. Il ne faut pas craindre le tirage au sort. Nous serions, nous tous, bien plus puissants avec un système de tirage au sort qui ferait que nos représentants restent nos serviteurs et ne pourraient pas devenir nos maîtres. Un mot pour finir. Juste un mot. Allez sur le message.org qui a été fait par l'un d'entre vous. Il me semble que nous devrions, comme des virus à la base, sans attendre que des médias ou des gens puissants se passent quelque chose, il faut qu'à la base, nous passions le mot entre nous en disant « Il ne faut plus que l'Assemblée constituante soit élue, il faut absolument que l'Assemblée constituante soit tirée au sort. » C'est de là tout va découler. Je pense que cette idée est valable pour toute la Terre. Je vous remercie de votre attention.
Bon, ben ça a l'air que c'était ça la vidéo. J'aurais peut-être une petite dernière nouvelle, pareil, t'es assez cocasse. Une loi française interdit aux femmes de porter le pantalon. Je ne sais pas si c'est vrai, ça vient de 7SS.be, le fameux média qui aime bien les affaires sensationnelles, d'après ce que je vois. Savez-vous qu'il est interdit aux femmes de porter le pantalon en France? Point d'interrogation. Une loi interdisant aux femmes de s'habiller en homme date de la Révolution française. Ah, OK, c'est une vieille affaire. C'est comme nous autres, à un moment donné, on avait une loi que supposément, il fallait attacher nos véhicules quand on arrivait en ville. Ça doit dater dans le temps des calèches, mais là, je pense que ça n'existe plus. Là. N'a pas toujours été abrogé. C'est un reportage diffusé mercredi dans le JT de France 2 et est revenu cette étrange loi. Celle-ci stipule que toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. En 1982, cette loi a été légèrement adaptée en autorisant désormais le port de pantalon aux femmes qui tenaient les guidons d'une bicyclette ou les rênes d'un cheval. Il dit bien 1982, ça a pris du temps. Aujourd'hui, les femmes peuvent bien entendu porter jupe, pantalon à leur guise. Toutefois, un groupe de féministes insiste sur le fait que cette loi interdisant aux femmes de s'habiller en homme n'a pas été abrogée. Le contrôle de la femme reste s'insurge à Asma Guignifi, la présidente de l'association Ni pute ni soumise, qui veut se battre pour cette loi, passe définitivement à la trappe. C'était la petite nouvelle que je trouvais cocasse, que je voulais dire en finissant. Là. Il y a Joe aussi, que je viens de voir rentrer. C'est bien plate, tu viens d'arriver, puis moi, je termine l'émission. Ne pas oublier EDDNP à soir. L'émission est un petit peu courte. Je suis complètement seul aujourd'hui pour avoir fait l'émission. Puis en plus, j'étais pas préparé. Je pensais que, comment dire, Q3 aurait été là. J'aurais arrivé un petit peu en retard, mais finalement, ça a l'air que tout reposait sur moi. Là. C'était ça en gros. Puis, ben, coudonc, EDDNP à soir. Oups, c'est pas la musique de fin, ça. Attendez une petite minute. La musique de fin. Thank you.